Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé le meilleur week-end possible et bien protégé et du virus donc et du froid. Soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes ensemble et en direct de 14h30 à 15h30 et ce jusqu'à vendredi. Et au programme cette semaine, de la psycho, de la philo, un grand entretien jeudi avec une famille extraordinaire et de l'amour, parce que c'est ça qui nous fait avancer, l'amour. Mais pour l'heure, je vous attends au 3210 et sur nos réseaux sociaux. Tiens, pour parler d'eux justement, 39 millions de Français les utilisent activement et c'est sans oublier bien sûr les entreprises, les artisans qui s'y promeuvent. S'y exposer, même avec le sentiment de maîtriser et de valoriser son image, c'est aussi prendre le risque de se confronter aux faux pas, à la critique et aux commentaires qui impactent notre irréputation. Alors comment une irréputation justement, puisque l'on parle d'elle, se construit-elle? Quelles sont les stratégies qui sont mises en place par les utilisateurs? Le nombre de followers est-il forcément un gage de réussite? Peut-on vraiment contrôler sa communication sur les réseaux sociaux? Sur quoi tient-elle? Quelles sont les conséquences d'une mauvaise image et est-elle rattrapable? Beaucoup de questions, n'est-ce pas? Et tout autant de réponses, voire plus grâce à nos invités. Bonjour Mickaël Stora.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, psychanalyste et cofondateur de l'OMNSH, c'est l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines.
Bravo.
À vos côtés, Dominique Boulier. Bonjour,
bonjour
Dominique
Flavie.
Boulier, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po et linguiste, spécialiste donc du numérique. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, Dominique Boulier, à l'avènement des réseaux sociaux, qu'on aurait un jour à se poser la question de notre irréputation? Est-ce qu'on s'est lancé d'une façon parfaitement naïve dans cette immense toile, ou est-ce que l'on était quand même un petit peu averti?
Je pense que non. Je pense que les années 2000, c'est l'époque où les réseaux sociaux restent des réseaux d'amis. On avait des choses comme MySpace, on avait des choses comme Friendster dans d'autres pays, etc. Donc, et c'était vraiment quelque chose qui relevait de la relation interpersonnelle, quoi. Et puis, on a quand même une mutation qu'il faut dater, qui est en gros de 2009, si on veut, à un moment où on a mis en place des systèmes de réactivité élevés, c'est le bouton retweet par exemple, d'un côté, et puis de l'autre côté, on installe des régimes publicitaires qui vont générer beaucoup d'activités et que les plateformes vont susciter en demandant aux gens de s'engager encore plus. Et tout le système va basculer. Au début, on pense que ça, c'est la même chose, et on continue à s'engager. Et puis nous-mêmes, nous sommes du coup attirés par le fait que rien que le bouton like, ben voilà, ça s'invente à la fin des années 2000 aussi. Et à partir de ce moment-là, nous sommes pris dans cette sphère d'une comptabilité, parce que c'est ça la particularité de la réputation numérique, c'est que tout est calculable. Donc, et on laisse des traces partout. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut imaginer toute chose sur quelle est notre réputation, comment on peut s'évaluer, etc.
Mais est-ce que tout est calculé? En dépit de notre prévention.
En réalité, tout est
et de notre prudence.
Tout est calculé, disons.
En deux mois, est-ce que c'est plus fort que nous, quoi?
Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que du côté des plateformes, tout est calculable et tout est calculé parce que de toute façon, on teste des corrélations, on met en place, on vérifie qui écoute quoi, qui regarde quoi, qui suit qui, etc. Et à partir de cela, on fait des propositions de placement publicitaire qui sont plus ou moins rentables. Mais du côté de l'utilisateur, le pire, c'est que l'utilisateur, lui, il apprend à se calculer. Vous savez, on dit, je te calcule, bon, etc. Bon, ben voilà. C'est un
vous
peu
êtes
la
super
chose.
Branché, vous.
Ah, bah, oui, bien sûr.
Non, mais donc, déjà, voilà. Vous me parlez de trucs que je ne maîtrise pas du tout depuis le début. Et en plus, vous avez... Non, c'est vrai, quand
ben
même,
oui.
De
et donc, c'est très amusant, parce que cette expression-là, maintenant, elle est dans la réalité. C'est-à-dire qu'on se calcule, on voit les uns et les
plus
autres.
Plus que jamais, on se calcule et on ne se calcule pas.
Voilà, exactement.
Alors, c'est vrai, Mickaël Stora, puisque vous êtes psychologue, et puis vous vous intéressez vraiment à nos comportements sur les réseaux, qu'à titre individuel, on peut devenir notre propre marque depuis quelques temps. Et donc, on se construit une image, une sorte de faux self, finalement.
Oui, alors c'est vrai que le concept de self-branding, hein, c'est l'idée que chacun est devenu une marque dont le but, évidemment, est de se vendre. Certains, d'ailleurs, le terme d'influenceur est intéressant, puisque l'idée qu'on influence l'autre dans sa manière de penser, d'imaginer. Et d'ailleurs, certaines études ont montré à quel point, par exemple, les adolescents retrouvent leur nouvelle figure d'identification sur les réseaux sociaux. Et ce qui est vrai, c'est que oui, j'ai un moment, je me suis interrogé sur la psychologie des influenceurs qui, pour moi, sont comme des caricatures de cette problématique de la irréputation, pour remarquer que certains vont créer une sorte de faux self, qui est l'idée d'un moi virtuel. Et cette tension entre un moi virtuel qui prend de l'ampleur, mais où est le moi réel? Et parfois le moi réel, cette tension entre les deux, peut créer une forme de burn-out digital.
Alors, vous parlez des influenceurs. À partir de quand est-on un influenceur, puisqu'on parle de calcul?
Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas forcément de chiffres précis.
Mais c'est parce qu'on peut avoir de l'influence sur son entourage, sur son réseau d'amis, et puis on peut avoir une influence presque tentaculaire, je dirais.
Alors, moi, ce que j'ai pu saisir, par exemple, si on prend l'exemple d'Instagram, où on voit que les influenceurs existent, il y a des personnalités certifiées, d'ailleurs, je crois que...
Oui, j'en fais partie.
Voilà, ouais. Vous êtes donc une forme d'un... Vous êtes
avec le petit truc bleu, là. Voilà. On m'a dit, il faut que tu aies le petit truc bleu.
Voilà.
Je ne sais même pas
quoi ça sert. Comment avez-vous fait pour l'avoir?
Ah ben je ne sais pas, moi, on l'a géré pour moi. Ça a été géré par moi, enfin pour moi.
Voilà, c'est ça. Mais donc, c'est vrai qu'à un moment, il y a l'idée que...
Tu ne sais pas à quoi ça sert.
Bah alors, ouais. Je pense qu'en effet, les personnalités certifiées ont une forme de pouvoir d'influence, qui sont repérées. Mais sinon, on repère, les marques publicitaires nous le disent, ce sont des personnalités qui ont quand même un nombre minimum d'abonnés, qui tourne autour de plus de 10 000, 20 000, voire plus. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, il y a un nouveau modèle économique qui se met en place. Et je crois qu'une des personnalités les plus influentes en ce moment auprès des ados, c'est Léna Situation, qui en effet, véritablement, va avoir une influence dans leur mode de vie, dans leur manière de penser, dans tous ces processus-là qui étrangement nous échappent.
Bon, on va se retrouver dans un instant. On a encore évidemment plein de questions à vous poser sur le sujet. Je vais vous demander à quoi ça sert, Dominique Boulier, hors antenne, ce petit truc bleu là, ce petit macaron qu'on a mis à côté de mon nom sur Instagram. Vous le savez pas? Bon, non, mais je sais pas, est-ce que c'est une façon de s'afficher comme étant une personnalité? Auquel cas, ça a pas grand intérêt. Mais enfin, bon, bref, on va y revenir dans un instant avec vous. On va également avoir en ligne une jeune femme qui s'appelle Fiona. Fiona, écoutez, depuis 3 jours, en tout cas pour ceux qui regardent la télévision. On connaît plus une certaine partie du corps que Fiona que son très joli visage pourtant. Elle va nous expliquer pourquoi tout de suite sur RTL.
RTL, Flavie Flamand.
Fever, c'était en 1958, mais c'est cet après-midi sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL.
Dans ce studio, mes invités, en ce lundi, vos invités, bien sûr, en direct sur RTL, mais également sur RTL.fr, sont Dominique Boulier, qui est professeur de sociologie à Sciences Po et linguiste, spécialiste du numérique, et Mickaël Stora, qui est psychologue et psychanalyste, spécialiste également du monde numérique et des réseaux sociaux et de leur influence aussi, hein, parce que ça fait quelques années qu'on vous reçoit, Mickaël Stora, et on voit que vous-même, vous commencez à exercer, enfin, vous exercez depuis toujours, mais un regard de plus en plus critique et pointu sur les dérives des réseaux sociaux et de cette fameuse irréputation dont on parle jusqu'à 15h30.
Oui, je crois que lorsqu'on réfléchit un petit peu aux idéaux qui ont été dans les premiers temps d'Internet, c'est cette sorte d'idéal de démocratie, ce qu'on appelait cette horizontalité, on n'est plus dans un rapport vertical à des pouvoirs, finalement, le like, disons les choses, est un monstre terrible qui a été engendré et qui même, quelque part, finalement, nous renvoie à cette idée que on pourrait quantifier l'amour, quelque part, c'est
qu'on
recherche, c'est de l'amour. Certains en font de l'argent, ok, mais derrière, tout le monde est en quête. Qui, lorsqu'il publie quelque chose sur un réseau social, ne regarde pas le nombre de likes qu'il va avoir, évidemment. Et c'est vrai que ça engendre peut-être même des désordres sociaux, au bout du compte. Parce que moi, j'ai un moment, j'ai pensé que les gilets jaunes, si on réfléchit, ne voyaient que des gens qui affichaient un bien-être, un luxe, qui sont les valeurs proposées par les réseaux sociaux, et
oui,
tout en ayant eux-mêmes vivant dans des conditions terribles. Et je pense que cet idéal de réussite qui est une philosophie propre aux réseaux sociaux engendre beaucoup de frustration, d'angoisse, de déprime, de jalousie, d'envie. Et je pense qu'à un moment, sans être dans le tout caché, mais cette idée de transparence que favorisent les réseaux sociaux est une hypocrisie totale.
Oui, parce que de la transparence,
Oui, parce qu'en fait,
de perlin, pam pam.
Tout à fait. Comme Mickaël le disait, effectivement, ce qui est en réalité, ce qui est important, c'est que la transparence en question, c'est se présenter en fonction de ce qu'on suppose que les autres veulent voir et pour lesquels ils vont répondre par des likes, des retweets, etc. Et donc c'est ça cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'on finit par apprendre à non seulement à compter effectivement tout et à vérifier les résultats et les effets de sa communication, mais derrière à produire le message qui convient. Donc on se met en scène comme cela, Instagram est extraordinaire pour cela, effectivement, et on sait petit à petit s'influencer soi-même, j'allais dire, se transformer pour qu'on rentre dans des cadres, mais qui sont complètement, alors qui peuvent être du coup tellement éloignés de soi qu'on a cet effet de faux self, comme c'était dit précédemment, mais aussi le fait qu'on du coup on génère et on apprend techniquement à faire des choses qui sont, par exemple, proposées par Google, qui vous dit, si vous voulez faire des bons scores en tant que YouTuber, eh ben, venez chez nous et on va vous former pour faire ça. Donc, ce sont quasiment des professionnels, par certains côtés. Et à ce moment-là,
et qui vont nous apprendre quoi aussi, Dominique Boulier, dans ces cas-là?
Ils apprennent effectivement à savoir composer, éditer une vidéo, à savoir le rythme qu'il faut y mettre, à savoir les types d'images qu'il faut privilégier.
À quelle heure poster.
Exactement. Et tout le reste, effectivement, les types de hashtags qu'il faut avoir, etc. Et tous ces petits détails-là, au bout du compte, vous donnent une chance de devenir, éventuellement, de gagner votre vie avec ça, puisqu'il y en a un certain nombre.
Alors, on y reviendra, justement. Mais pour l'heure, on va accueillir Fiona sur cette antenne. On va lui demander, justement, si elle maîtrise absolument tout ça. Bonjour, Fiona.
Bonjour, Flavie.
Soyez la bienvenue. Vous avez 25 ans, vous vivez à Paris. Fiona, je disais il y a un instant que l'on vous connaît, en tout cas, tous les téléspectateurs de Laurent Ruquier sur France 2 connaissent une partie de votre anatomie qui n'est pas votre joli minois. Puisque dans la dernière émission de Laurent Ruquier, dont vous êtes l'assistante, hein, pour être bien transparent avec tout le monde, dans la dernière émission de Laurent Ruquier, l'humoriste Philippe Cavrivière, qu'on retrouve d'ailleurs les mardis et jeudis chez Thomas Soto le soir, a parlé de vous et notamment des réseaux sociaux. On écoute.
Alors, l'instagrammeuse voyage, il y a un bel album qui s'appelle Mon cul à Miami. Et vous avez, je ne sais pas si vous reconnaissez la jeune demoiselle.
Non.
Vous entendez ? Ben, si, c'est votre assistante.
C'est pas vrai.
Fiona Deshaies. Voilà. C'est la collaboratrice, c'est pas une vanne.
Non.
Vous la connaissez
c'est
pas comme ça.
C'est mon assistante, oui.
Bon, elle vient pas comme ça au bureau,
non,
mais.
Non, bah non. Voilà, c'est Fiona, ça.
Ouais, c'est Fiona. Bah oui, on la reconnaît quand même.
Bah vous peut-être, mais pas moi. Ouais.
Alors, Fiona, ce que l'on voyait sur cette photo, c'était quoi ?
C'était tout simplement moi dans une rue à Miami, en maillot de bain. Mmh. Donc d'ailleurs, j'étais très déçue que Laurent Ruquier ne reconnaisse pas ce maillot de bain. Non, trêve de plaisanterie. Non, voilà, c'est tout simplement le moi de dos. Voilà, dans un bikini, comme de nombreuses personnes ont pu me voir tous les étés où je vais en vacances.
Alors, c'est une photo que vous avez postée sur vos réseaux, où on voit effectivement votre corps très, très, très joli. Vous êtes de dos. Un maillot de bain que je n'oserais plus porter à mon âge, hein, quand même, soyons très clairs. Donc, un très joli maillot de bain pour très jolie jeune fille, très bien foutue. Et néanmoins, c'est ce qu'a retenu donc Philippe Cavrivière en parlant des réseaux donc sur cette antenne. Vous étiez prévenu de l'apparition de cette photo ?
Oui, très honnêtement, Philippe m'a appelé la veille. En me disant, écoute, je fais une petite chronique et quelques vannes sur les influenceuses et les instagrammeuses. Est-ce que je peux utiliser une de ces photos où on te voit en maillot de bain? Moi, évidemment, tout ce qui est sur mes réseaux sociaux, je suis consciente que ça peut être repris partout. Donc, j'ai pas de souci avec ça.
D'accord. Alors, on va se retrouver dans un instant parce que retrouver ses fesses sur France 2, c'est pas non plus quelque chose de très courant. Vous nous avez effectivement expliqué que plus on met du sexy sur un compte Instagram lorsque l'on est une jeune femme, plus on ramasse de likes. Il semble quand même que vous ayez un regard assez critique là-dessus. On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous expliquer ça, Fiona, tout de suite sur RTL.
On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Alors, on parle de la e-réputation, hein, notre réputation sur les réseaux sociaux, la façon dont se construit une image. On va reprendre Fiona sur cette antenne dans un instant. Sachez que dans la deuxième partie de cette émission, on parlera aussi de la promotion professionnelle, hein, aussi, et en même temps de la dérive parfois que l'on peut retrouver chez ceux que l'on appelle les influenceurs. Fiona, donc vous avez 25 ans, vous êtes l'assistante de Laurent Ruquier. Philippe Cavrivière a diffusé une image très jolie, hein, de vous en bikini dans les rues de Miami, une photo sexy. Est-ce que vous me disiez il y a un instant, on sait très bien ce que l'on poste, on sait très bien ce que l'on diffuse et on est conscient. Est-ce que néanmoins cette expérience qui vous a fait rire puisque vous l'avez vous-même reposté après, est-ce que cette expérience vous a fait prendre conscience peut-être aussi de ces images qui à un moment donné peuvent nous dépasser?
Non, alors cette expérience, non, parce que c'était plutôt très rigolo et j'ai trouvé que Philippe Cavrivière avait fait ça avec beaucoup de subtilité. Mais c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez du moi virtuel qui est à la course au like, la recherche du like. là, on peut perdre un peu les moyens. On a l'impression de tout contrôler sur le moment. Mais effectivement, voilà. Quand on a de plus en plus de followers, de plus en plus de likes, de plus en plus de commentaires, on n'a pas envie que ça s'arrête. En fait, on rentre dans un espèce d'engrenage. Donc, on peut perdre les moyens, on peut perdre le contrôle à un moment. Après, je pense que si on est bien entouré, c'est un peu finalement comme la médiatisation. Je pense à une émission de télévision qui fait un maximum de téléspectateurs parce que va y avoir du buzz à un moment. On va avoir envie d'en faire, de faire du buzz chaque semaine ou chaque jour, quoi. Donc, je pense qu'il faut être entouré et puis savoir ne pas aller trop loin et ne pas dépasser ses limites, quoi.
Alors, je suis allée évidemment sur votre compte Instagram. Vous êtes très, très, très jolie. Vous êtes une jeune femme et on sent que vous avez 25 ans. Vous êtes dans, et n'en prenez pas ombrage parce qu'il n'y a absolument aucun jugement, hein, mais vous êtes dans les codes de communication qu'on peut retrouver chez les jeunes femmes aujourd'hui, qui sont très jolies, qui postent des photos. Parce que, par exemple, cette photo qui a été diffusée dans l'émission de Laurent Ruquier, c'est une photo, moi, par exemple, qui serait dans mon album photo. Vous voyez que je n'oserais pas forcément diffuser sur les réseaux. C'était quoi le but à l'origine de montrer ces jolies fesses sous les cocotiers?
Je ne sais pas s'il y avait un but précis. Comme vous disiez tout à l'heure, on recherche le like. On sait que finalement, quand on va montrer son corps, on va en avoir un peu plus que si on montre sa tête ou autre chose. Il n'y a pas un but précis quand je mets ça. Je partage mes vacances, je partage l'endroit où je suis, je partage à la fois ce joli maillot de bain et puis on se dit pourquoi pas, le maillot de bain va être repéré. Voilà, vous parliez aussi de tout à l'heure des réseaux qui peuvent.
Le maillot de bain pourrait être repéré, est-ce à dire que vous avez tagué la marque de votre maillot de bain?
Alors, je ne sais pas si sur cette photo j'ai tagué la marque. Je sais en revanche que si on pose la question de savoir d'où vient ce maillot de bain, je réponds et dans ce cas-là, je tague la marque sur une autre story.
Ça d'accord. Ce qu'il faut savoir pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas très pros de ce genre de choses, c'est quand on tague une marque, c'est que quelque part on signifie à une marque qu'on l'a citée, qu'on en a fait la promotion dans une photo personnelle. Donc, par exemple, si vous postez une photo de vous en maillot de bain, très jolie, très sexy, assez dénudée, et que vous taguez cette marque, quel est votre objectif à ce moment-là? C'est d'attirer l'attention d'une marque et éventuellement à un moment donné de pouvoir professionnaliser votre activité?
Ça peut l'être, oui, c'est des marques que j'aime bien. Moi, j'aime bien collaborer avec certaines marques. Si après la marque revient vers moi en me proposant quelque chose, oui, ça sera bien. Après, je vous entends dire depuis tout à l'heure et je comprends totalement une photo très sexy des femmes en maillot de bain avec des maillots de bain brésiliens. On en voit tous les jours à la plage, à la piscine. C'est là où c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que on se penche et on met le doigt sur une photo d'une femme en maillot de bain sur les réseaux sociaux, qui à la fois n'est pas si originale que ça, pardon.
Non, mais c'est quand même autre chose de la diffuser sur des réseaux et de la mettre en avant que de se balader en maillot de bain sur la plage. Même si pour vous l'image est banale, et encore une fois, il n'y a pas de jugement, mais même si pour vous l'image est banale, on sait à quel point elle va être valorisée, mise en avant sur les réseaux sociaux pour un but bien précis. Moi, quand je me balade sur la plage, c'est pas pour montrer mes fesses sur les réseaux, vous voyez ce que je veux dire?
Je dirais, il y a peut-être autant, voire plus de personnes qui vont voir vos fesses sur la plage que sur les réseaux sociaux. Après, c'est une question de choix et de réflexion, mais je veux dire, quand vous êtes sur une plage, il y a autant de personnes qui voient vos jolies fesses, j'imagine. Oui. Et en plus
c'est
ça, je vais vous dire très honnêtement, c'est que vous savez, alors je pense pour la plupart des nénettes qui sont sur Instagram en maillot de bain, et moi j'en fais partie, je vais pas vous mentir, c'est que la photo est évidemment un petit peu retouchée, avec la peau qui est un petit peu lissée.
C'est pour ça que je poste pas, moi. C'est que je ne savais pas.
Si
non, mais alors, donc ça veut dire que vous. Alors, ça, c'est hyper intéressant. Vous avez recours aussi à on va y revenir, hein, mais à de la modification, à du filtre, à. C'est pas vos vraies fesses, je me sens mieux.
Non, c'est pas si vous saviez, en vrai, je viendrai vous voir un jour au bureau.
Non, mais donc, vous l'avez retouchée, cette photo?
Oui, elle est un petit peu retouchée. On va dire que la peau est un petit peu lissée pour évidemment que les trous de cellulite ne se voient pas sur Instagram. Mais après, ça reste mon corps, évidemment.
Donc, il y a bien un objectif, parce que moi, sur la plage, je peux pas retoucher ma peau, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un objectif, évidemment, qui est peut-être aussi de calquer à des codes qui sont dictés par, justement, la e-réputation aujourd'hui.
Calquer, oui, et puis à la fois, en même temps, c'est quand on voit cette photo, on se dit que peut-être c'est les fesses qu'on a envie d'avoir. Enfin, moi, c'est les fesses que j'aimerais bien avoir sans retouche. Donc, je sais pas, c'est quand je regarde cette photo, je me. J'ai pas l'impression. Alors, je sais que c'est moi, mais voilà, c'est une version améliorée de moi.
D'accord. Voilà. Et vous restez avec nous?
Évidemment.
Ouais. On va se retrouver dans un instant. On va passer par l'information. Olivier Bois vient de rentrer dans ce studio. Il n'est pas retouché, lui. Hein. Il est vraiment comme on l'a laissé la semaine dernière. À tout de suite sur RTL.
RTL, on est fait pour s'entendre.
Tout à l'heure et nous à tout de suite sur RTL.
Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Alors dans un instant, on aura peut-être Aurélie en ligne. Aurélie, elle est styliste. Tiens, elle va pouvoir intervenir justement sur la nature de ses followers et des contrats qui en découlent, des contrats professionnels. Pour l'heure, donc on parle de notre e-réputation avec vous, Fiona. Ce sera encore rapide hein, si vous le voulez bien. Mais juste, on s'est quitté sur cette idée que vous utilisiez les filtres sur votre compte Instagram et que c'était une façon pour vous d'avoir un moi amélioré.
Oui, exactement.
Vous êtes bien dans vos pompes, dans votre vie, dans votre corps, Fiona?
On a toujours des petits défauts qu'on aimerait changer. Ouais. On a toujours des choses qu'on a envie d'améliorer et puis avoir pleinement confiance en soi. J'imagine que c'est un peu utopique, je sais pas si ça m'aide. Je sais pas si j'ai pas le recul pour vous dire ça. Je sais que encore une fois, on parle du like. Quand on a du like sur une photo, ça fait plaisir. Après, il faut pas oublier que c'est virtuel et que voilà, ça peut être des comptes fake, ça peut être voilà tout et n'importe quoi.
Quelle est l'image que vous avez le sentiment de renvoyer puisque c'est notre sujet du jour?
Figurez-vous que c'est une bonne question parce que on a l'impression d'être, on se connaît nous en fait, et on n'a pas le recul quand on poste une photo ou quand on poste du contenu de se dire mais la personne qui va voir ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Parce qu'on est tellement sûr de ce qu'on est à l'intérieur qu'on se pose pas cette question-là. Moi, je me dis que peut-être l'image est un peu faussée. Ça fait le tri des gens qui entourent, puisque ceux qui prennent vraiment le temps d'apprendre à vous connaître, c'est ceux qui savent vraiment qui vous êtes, quoi. Donc, je pense que l'image, elle est un peu faussée, mais voilà, à partir du moment où on est sur une vitrine, encore une fois, que ce soit la presse écrite, la télévision, les réseaux sociaux, c'est jamais vraiment nous-mêmes qu'on montre.
C'est vrai. Mais pour accéder à cette vitrine, il fut un temps où effectivement c'était réservé à certaines personnes, je dirais, par le biais du métier qu'ils exerçaient. Et depuis quelques temps, tout le monde peut accéder et avoir sa propre vitrine. Vous vouliez réagir, Dominique Boulier? Je vous ai vu réagir au faux compte.
Oui, parce que justement, ça c'est très intéressant. Je pense que ce qu'on est en train d'apprendre collectivement, et particulièrement cette génération-là, c'est cette culture du fake, si vous voulez. Alors on peut le prendre du mauvais côté, en se disant, mais c'est catastrophique, tout ça est faux, effectivement. Et donc on apprend à la fois à utiliser tous les filtres, et on sait très bien faire, on y a une expertise, et puis y compris, comme dans certains cas, ou des hommes politiques que l'on fait d'ailleurs à une époque, on va aller chercher des faux like, et ça s'appelle de l'astroturfing.
Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On achète?
Oui, il y a des agences pour ça, vous achetez un stock de like, et puis voilà, et c'est bon, et vous montez comme ça en réputation. Donc c'est du calcul et c'est de l'artifice, si vous voulez. Mais si on le prend de l'autre côté, en même temps, ça peut devenir une expérience intéressante, c'est-à-dire que se dire finalement, eh bien, on est peu à l'aise, parce que c'est pas, elle a tout à fait raison de le dire, c'est pas seulement sur les réseaux qu'on est un peu fake, c'est-à-dire que c'est un jeu de masque. Donc après tout, ce jeu de masque, surtout à la période actuelle, eh bien effectivement, on apprend à vivre avec. Alors le problème, c'est est-ce qu'on se laisse embarquer dans la dynamique qui est terrible de la part des plateformes, parce qu'elles vous poussent à en faire toujours plus, ou est-ce qu'on garde un peu une certaine distance et un peu un jeu qui peut du coup être assez sain de ce point de vue-là.
Est-ce que vous vous sentez un peu mise sous pression de temps en temps, Fiona? Est-ce que vous êtes sollicitée justement par ces grands réseaux qui viennent vers vous en se disant que vous pouvez, on peut faire quelque chose avec avec vous?
Moi, je prends vraiment les réseaux sociaux maintenant comme un plus.
Oui, mais est-ce que vous avez déjà été sollicité par des marques, les réseaux en eux-mêmes, Instagram?
Ah oui, bien sûr. Alors Instagram, non, mais par des marques régulièrement avec qui parfois j'accepte de travailler, parfois je refuse. Moi, c'est pas mon gagne-pain, c'est pas ce qui me fait gagner ma vie. Après, je suis pas.
Mais par exemple, vous faites des postes rémunérés?
Je fais des postes rémunérés, j'en fais très très peu. J'accepte vraiment quand la marque me plaît et que j'ai envie de la faire découvrir à la petite communauté qui me suit, parce que moi ils sont vraiment pas nombreux. Et sinon après je fais pas mal d'échanges, mais à titre gratuit en fait, c'est de l'échange de prestations.
Donc on vous offre un truc contre une photo ou un truc, quoi, c'est ça?
Exactement.
D'accord. Il y a Francis sur Twitter qui demande si vous avez gagné des followers depuis samedi.
Eh ben oui, figurez-vous que j'ai remporté, je crois, 300 followers, vous imaginez, grâce à Philippe Cavrivière.
Bon, bah voilà, donc on dit merci Philippe Cavrivière, merci le string, merci RTL, parce qu'on sait jamais, si vous gagnez des followers là, vous nous envoyez un petit message, hein. D'accord, parce que vous êtes passé sur RTL, on en a reparlé, donc on sait jamais, peut-être qu'effectivement on aura été un peu influenceur à notre façon. Merci Fiona.
C'est promis. Merci à vous.
Dans un instant, on va rentrer dans un domaine plus professionnel, on va recevoir Aurélie sur cette antenne qui nous explique qu'Instagram est devenu problématique pour elle professionnellement. Pourquoi ? Parce que la nature de ses followers, en fait, a une influence sur l'obtention de ses contrats. Elle va nous expliquer ça dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Justement, on marche sur un fil hein, quand on est sur les réseaux sociaux. Et comment ça ? Qu'est-ce que j'apprends ? Dominique Boulier, vous êtes notre invité jusqu'à 15h30. Et on vous retrouve... Quoi ? Ne rougissez pas. On vous retrouve dans Libération, une interview très intéressante. Justement, faut-il que les politiques quittent Twitter ? Oui, le dites-vous. Alors, petit biais comme ça et petite... On va en parler rapidement. Les réseaux sociaux ne devraient pas concerner les politiques. Les politiques ne devraient pas s'aventurer sur les réseaux sociaux, les Twitter, les TikTok. On y a retrouvé Marlène Schiappa, Emmanuel Macron.
Mais quand je parle d'emprise des réseaux sociaux, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand on met le doigt dedans, on finit par tenir les discours qui vont être le plus acceptables par le public,
mais
que l'on veut séduire, comme on le fait sur Instagram, et le politique finit par faire pareil. Donc ça veut dire par employer des expressions, des petites phrases, qui sont au bout du compte souvent regrettables, c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc c'est le faux pas.
Et voilà, exactement. Et ces catchphrases, et tout ça, c'est des choses... Il n'y a pas le choix, si vous voulez. Une fois que vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas en sortir et vous devez vous-même intoxiquer parce que vous passez votre temps à regarder, en tant que politique, vous passez votre temps à regarder les scores que vous faites. Mais quand même, c'est pas ça, la démocratie. Et le débat public non plus. Donc je préconise que les hommes politiques conscients de ça s'en retirent. Ils verront qu'ils ne perdront rien du tout. Et je pourrais dire la même chose pour les marques, d'ailleurs. C'est un autre sujet sur le fait qu'on fait vendre, les marques continuent à payer des placements publicitaires dont ils sont incapables de prouver l'efficacité. Mais on le fait parce que les autres le font. Et bien ça, il va falloir quand même se calmer un petit peu, et les hommes politiques en particulier, parce que ça a des conséquences graves sur notre débat. Bien entendu, c'est à propos de Trump, mais ça concerne tout le monde.
Et hein. Trump, hein, dont on sait maintenant que le compte sur Twitter a été définitivement fermé. Et puis je cite votre ouvrage aussi, Dominique Boulier, « Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux ?» C'est aux éditions Le Passeur. Après, ce sera votre tour, hein. Je parlerai du vôtre, évidemment, Michael Stora. Bonjour Aurélie, bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Vous avez 37 ans, vous faites un métier, j'adore. Vous êtes styliste culinaire, c'est-à-dire que vous mettez en valeur finalement les recettes, les créations culinaires sur les réseaux sociaux. Et alors, ce qui est dingue, c'est que Instagram est devenu problématique. C'est une façon de promouvoir votre métier pourtant.
En fait, oui, c'est devenu un biais comme un site internet personnel.
C'est une carte de visite hein, maintenant. Hein.
Exactement, on est un peu tout obligé d'avoir un compte Instagram.
Ouais. Et en quoi c'est devenu problématique alors ?
Eh ben, c'est problématique parce qu'en fait, pour faire vraiment vivre un compte Instagram, il faudrait poster toute la journée. Or, c'est pas le cœur de mon métier. Ouais. Je travaille avec des magazines, je travaille sur des livres. Et donc, j'ai ça un petit peu comme une vitrine supplémentaire. Mais c'est absolument pas mon métier majeur de m'occuper de mon Insta. Et le problème, c'est qu'il y a des marques qui s'attachent au nombre d'abonnés qu'on a. Et mon nombre d'abonnés est pathétique. C'est un vrai problème.
Et vous avez combien d'abonnés, Aurélie ?
J'ai 215 abonnés, c'est
donc ça ne suffit pas pour les marques qui se tournent vers vous.
Voilà, sauf que pour la pub, j'ai déjà travaillé sur des grosses marques. Ça n'a jamais posé problème parce qu'ils ne regardent pas Instagram.
Ouais.
Et on en est au stade où on me dit « Oh, tu devrais peut-être acheter des faux followers comme le monsieur disait avant. » Et je trouve ça terrible.
Oui. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un piège hein, à un moment donné qui peut se retourner contre soi. On veut juste promouvoir son boulot et en fait, on se rend compte que les contrats tiennent finalement au nombre de personnes qui vous suivent. On va accueillir Valérie. Vous restez avec nous, Aurélie. Vous allez pouvoir entendre son témoignage. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous avez 34 ans, Valérie. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes en Normandie et avec votre sœur, vous avez créé des alcools sans alcool. Alors, c'est marrant parce qu'on en parlera d'ailleurs samedi prochain dans notre magazine Conso à 9h15 sur RTL. Ça s'appelle JNPR Spirits, c'est-à-dire que vous créez des alcools qui ne contiennent pas d'alcool. Donc, on retrouve le goût, mais pas les méfaits de l'alcool. C'est bien ça ?
Vous décrivez parfaitement le concept. Exactement.
Vous pouvez me prendre comme agent, il n'y a pas de problème. C'est gratos.
On veut exactement faire ça, on veut réinventer l'apéritif en proposant des boissons sophistiquées et plus exactement des spiritueux sans alcool. On a deux produits dans notre gamme.
D'accord, ok. Alors, vous étiez dans la communication avant, donc la com, vous la connaissez. D'ailleurs, la com des hommes politiques. Donc, vous avez forcément été sensible aux propos il y a un instant de Dominique Boulier. Dans un instant, vous allez nous expliquer comment vous avez justement créé l'image de votre marque, ce que vous cherchez à véhiculer sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu Aurélie qui nous disait « ça se retourne contre nous ». Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez peut-être deux, trois conseils à nous donner. On se retrouve tout de suite sur RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre. Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Valérie, donc votre marque s'appelle JNPR Spirits, je le dis parce que c'est de l'alcool sans alcool, donc c'est vachement bien pour le Dry January en ce moment, pour ceux qui ont décidé effectivement de faire une pause d'alcool. Vous avez combien de followers sur Instagram ?
3500.
D'accord. Vous êtes uniquement sur ce réseau pour promouvoir votre marque ?
Sur Instagram et sur Facebook.
D'accord, ok. Quelle est l'image que vous souhaitez véhiculer justement sur les réseaux et comment est-ce que vous avez mis ça en place ?
Alors nous, on est une jeune marque, on s'est lancé juste avant le confinement. C'était pas forcément le meilleur timing pour une marque de boissons. Et donc, on a utilisé Facebook et Instagram pour effectivement promouvoir nos valeurs et promouvoir ce qu'on était. Ce qu'on veut, c'est réinventer l'apéritif. On veut aussi montrer qu'on n'est pas une tisane. C'est pas parce qu'on n'a pas d'alcool qu'on n'a pas un goût sophistiqué, un goût relevé. Et c'est pour ça que il y a beaucoup d'Instagram qui ont des fonds blancs, alors que nous, on a voulu se mettre dans un univers de soirée, un fond plutôt noir. C'est aussi par les images qu'on essaye de véhiculer ce qu'on est.
C'est dingue.
Ouais. Et surtout, on essaye de dire ce qu'on est, c'est-à-dire une jeune marque normande portée par deux sœurs avec un savoir-faire et des valeurs. Et donc, au fur et à mesure, on détaille ce qu'on fait, ce qu'on porte, on donne de nouvelles recettes. Et on essaye de donner du contenu et puis un peu de corps et d'expliquer aussi ce que c'est l'envers d'une start-up aujourd'hui qui s'est lancée juste avant le confinement.
Est-ce que ça fonctionne pour vous ? Est-ce que vous sentez une appétence de ceux qui vous suivent pour le sujet ?
Alors oui, effectivement, on a eu aujourd'hui, grâce à Instagram et à Facebook, on pensait faire une année catastrophique. Au final, on a vendu trois fois plus que ce qu'on avait imaginé début de l'année, même sans Covid, avec nos plans d'avant confinement. Et aujourd'hui, ça continue. Alors effectivement, en ce moment, on est en période de dry January, donc ça intéresse beaucoup. Le sujet est quand même dans l'actualité. Puis aussi, pendant Noël, on a réussi, grâce à Instagram et grâce aux réseaux sociaux, à pouvoir présenter ce qu'on est, présenter ce qu'on fait et montrer tout ce qu'il y a derrière notre projet de réinventer l'apéritif.
Et tout ça, c'est extrêmement calculé ou vous le faites un petit peu à la one again ?
Non, c'est plutôt la deuxième version. Donc on est peu dans l'équipe, il y a énormément de choses à faire. Moi, souvent, je publie le soir avant de me coucher en me disant « tiens, il faut que je publie ». On n'a pas de plan éditorial.
D'accord.
Pour des mois, on essaye de véhiculer ce qu'on pense sur le moment. Après, par rapport à ce que vous disiez avant, je pense qu'il faut aussi, sur les réseaux sociaux, pas avoir peur de déplaire. Et moi, je suis extrêmement claire sur le projet qu'on porte avec nos valeurs. Je suis extrêmement consciente dans le fait que je me sens à ma place et j'ai l'impression vraiment qu'il manquait quelque chose de plus simple pour l'apéritif et que ça plaise ou pas, j'ai envie de porter ce message. Et quand on n'a pas peur de déplaire, je pense qu'on peut aussi s'exprimer plus librement.
Est-ce que vous avez subi des pressions, justement, des lobbies de l'alcool, je ne sais pas, qui à un moment donné vont essayer de dézinguer votre projet ? Est-ce qu'ils sont présents sur les réseaux ? Je ne me rends pas compte.
Alors, c'était quelque chose à laquelle je m'étais attendue au début, j'ai l'impression que ça regarde plutôt le projet d'un air bienveillant.
D'accord.
Je pense aussi sur une tendance de consommation plus saine.
Ouais.
Et donc non, je n'ai subi aucune pression. Et donc voilà.
Dominique Boulier, est-ce que les réseaux sociaux sont soumis à la loi E20 et à toutes les restrictions justement concernant l'alcool, la cigarette
Alors ça c'est un des vrais problèmes. Les réseaux sociaux, ce sont des hébergeurs. Donc c'est tout ce qui est en jeu. C'est-à-dire de dire, nous ne sommes pas responsables des contenus qui sont publiés sur nos comptes.
D'accord.
Donc ça les arrange énormément. Donc ils n'ont pas de responsabilité de ce type-là. Voilà typiquement un des enjeux de leur régulation, c'est-à-dire qu'ils devraient au bout d'un moment avoir une certaine responsabilité.
D'accord.
Mais sur cette affaire, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il peut y avoir des effets de concurrence et donc des effets de contre-réputation. On le voit pas forcément sur Instagram, à mon avis assez peu, mais on le voit typiquement par exemple sur les notations, sur les sites. Vous allez sur Google et puis vous vous avez des notations.
On peut dézinguer, en fait.
Et on se désingue les uns les autres.
On pourra vous recevoir sur le dézingage, sur les réseaux.
Malheureusement, oui, il y a eu des normes qui ont été publiées pour vérifier la validité des avis, hein, parce que c'est très compliqué.
On peut détruire quelqu'un comme ça sur les réseaux.
Oui, il y a des restaurateurs, il y a des hôtels comme ça qui subissent un retour terrible. Ouais. Donc tout ça est du fake, encore une fois, parce que quelquefois, ça justifie. On se dit, OK, on a l'impression que c'est vrai.
Ouais,
mais dites-moi, quand vous allez choisir un hôtel, si les commentaires les plus mauvais ne vous influencent pas.
C'est vrai. Pour les professionnels de la santé aussi.
Oui.
Nous sommes tous sur Google avec les avis, et c'est vrai que vous avez des psychanalystes 5 étoiles et des psychanalystes 2 étoiles. Et c'est assez drôle même de regarder les commentaires pour voir qu'on sent qu'il y a des patients qui n'avançaient peut-être pas suffisamment, qui vont mettre 2 étoiles. Donc
des patients ou des concurrents.
Ou des concurrents, mais en tout cas, même c'est drôle.
Et tiens,
vous voyez,
on fera une émission là-dessus sur ce désengagement. Valérie, vous pourriez donner un conseil à Aurélie qui nous explique à quel point elle est victime finalement de ces réseaux ?
Oui, alors je ne sais pas si j'ai vraiment de conseil à donner, parce que j'ai plutôt une stratégie, enfin je veux dire pas contrée, on fait effectivement la sponsorisation, mais je n'ai jamais payé d'influenceur, j'ai jamais acheté de followers, donc je ne suis pas du tout dans cette démarche, et je pense que les communautés aujourd'hui, plus elle est authentique et plus elle est sincère, plus elle pourra s'exprimer, donc je partage son constat que c'est plutôt déplorable qu'on regarde son nombre d'influenceurs et pas son travail en soi.
Bon, en tout cas, je vous remercie à toutes les deux d'être intervenues sur cette antenne. Je remercie nos invités 5 étoiles, parce qu'il faut qu'on vous le dise, on met des commentaires sur les invités. Donc Dominique Boulier, 5 étoiles, 5 stars. Il est dans Libération aujourd'hui. Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux aux éditions Le Passeur. Vous reviendrez, ça y est, c'est décidé, je l'ai décidé, pour nous parler du désengage. Est-ce qu'il faut suivre les avis ? Non, mais c'est hyper intéressant quand même. Michael Stora, merci beaucoup. Vous êtes 5 étoiles depuis quelques temps.
Merci beaucoup, Flavie.
Et si les écrans nous soignaient, c'est votre ouvrage aux éditions RS aussi.
J'en suis sur un nouvel ouvrage.
Ah, génial. Sur quoi ?
Eh bien, justement, les réseaux asociaux.
Ah bah tiens, super intéressant. Vous viendrez nous en parler.
Voilà.
Vous savez que
avec
vous êtes toujours l'invité de cette émission.
Merci
à vous, messieurs.
Merci
à tous. C'est le début de la semaine Chic Alors. On se retrouve donc demain dès 14h30 en direct sur RTL. Merci Valérie, merci Aurélie, merci à tous ceux qui ont laissé des messages aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, vivez masqués. Je vous embrasse puisqu'on peut le faire à la radio. À demain.
Salut, c'est Vincent Perrault.
RTL Pop Ciné.
Je vous attends tous les dimanches dès 14h pour RTL Pop Ciné. Des jeux, des interviews, des chansons de films, pour tout savoir de l'actualité cinéma.
RTL Pop Ciné, présenté par Vincent Perrault, dès maintenant en replay sur RTL.fr.